Où à travail l'impossible dialogue avec évidemment en ligne de mire l'épreuve de force sur le front social. Nous allons entendre deux sensibilités dans un premier temps, Robin Rivaton, puis nous entendrons dans une seconde partie à 8h15 Pierre Ferracci, PDG du groupe Alpha, et la journaliste aux Échos Léla de Commarmont qui a consacré un ouvrage à la CGT. 7h41 sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Bonjour Robin Rivaton, vous êtes économiste, essayiste, conseiller chargé de l'attractivité et du développement économique du territoire auprès de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Aujourd'hui, les acquis sociaux vous paraissent-ils incompatibles avec les intérêts économiques de la France? La rendent-ils en quelque sorte irréformable?
Non, je pense qu'il faut pas cracher sur ces acquis sociaux qui sont des choses qui ont été obtenues de haute lutte et qui sont un héritage qu'il faut pas négliger. Mais aujourd'hui, dans un monde qui change, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas demeurer telles qu'elles sont. Aujourd'hui, la question qui s'offre à nous, c'est un peu celle qui se posait dans le Guépard. C'est comment, en fait, tout changer pour que tout demeure? Comment garder des acquis sociaux et une qualité de protection sur la santé, sur une assurance chômage, des retraites qui fonctionnent? Pour que tout ça fonctionne dans un monde qui est ouvert et qui est concurrentiel. Et pour réussir ça, il faut quand même accepter certaines variations à la marge.
C'est ce que fait la loi travail ?
C'est ce que faisait la loi travail dans sa première version. Dans sa seconde version, donc celle qui est en discussion et qui est passée via le 49.3, je trouve qu'elle a été largement amoindrie et donc elle répond beaucoup moins à cet objectif-là, à la fois de réessayer d'améliorer la production de richesses, pour assurer une redistribution derrière.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait en plus à la loi travail pour que celle-ci, à vos yeux, remplisse en quelque sorte son objectif ?
Je pense qu'elle aurait dû suivre la philosophie initiale. Ce qui est important en politique, c'est quand même qu'on n'est pas là pour faire des mesures technocratiques, on n'est pas là pour régler des curseurs. Il y a besoin de philosophie. La philosophie qui a été proposée par Robert Badinter, c'était de remettre la négociation au niveau de l'entreprise, pour que les salariés et leurs chefs d'entreprise puissent discuter entre eux. Cette philosophie initiale a été beaucoup amoindrie au fil du temps et au final on se retrouve avec des pouvoirs syndicaux qui sont renforcés, donc une démocratie sociale qui n'est pas rénovée, et à côté de ça, des avancées sur la liberté de négociation qui sont au final très ténues.
Comment décryptez-vous la stratégie aujourd'hui de la CGT ?
On a une CGT qui joue pleinement l'occasion que lui a fourni le gouvernement. Je pense que c'est un très beau cadeau qu'a fourni le gouvernement à une CGT qui est en mal de légitimité vis-à-vis des adhérents, qui est prise en tenaille entre un syndicat plutôt réformiste qui est la CFDT et un syndicat qui est très offensif sur le terrain qui est Sud, et donc qui a besoin de montrer un peu les muscles en vue d'élections l'année prochaine, et donc elle le fait remarquablement bien. Et puis il faut pas négliger aussi quelque chose qu'on a oublié, c'est qu'il y a eu un très violent débat sur la déchéance de nationalité à gauche qui a fracturé la gauche, et mettre la loi travail juste derrière a sans doute permis un exutoire de cette violence.
Mais alors, aujourd'hui, les actions de la CGT vous paraissent-elles légitimes, Robin Rivaton ?
La manifestation est légitime, la grève est légitime, le blocage est illégitime, la casse est illégitime. Donc il faut faire la distinction entre ce qui relève de la liberté de manifester ou du droit de grève, qui sont des libertés normal en démocratie, et heureusement qu'on les défend, et ce qui relève de l'illégalité. Quand on bloque un dépôt de carburant, quand on bloque une raffinerie, quand on empêche des gens d'aller travailler, quand on empêche des camions de venir faire le plein ou remplir des stations-service, on est dans l'illégalité, et là c'est au gouvernement de faire respecter l'état de droit.
Par exemple ?
C'est au gouvernement ce qu'il vient de faire actuellement là sur deux ou trois dépôts de carburant, en débloquant les dépôts et donc en empêchant les gens qui entravaient la libre circulation, qui est là aussi une liberté qui mérite d'être respectée. Donc il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, il l'a fait avec un peu de retard. Le problème, c'est quand on laisse une marge, quand on laisse un peu de laxisme, c'est la tentation à ceux qui ont envie d'aller un peu à la confrontation d'y aller.
Vous trouvez que le gouvernement a été laxiste ?
Je pense que sur certains aspects, il a pu donner l'impression d'avoir une certaine acceptation vis-à-vis de ces casses. On a vu les manifestations assez violentes dans les centres-villes, qui ont quand même donné des images assez terribles. Et puis de l'autre côté, sur les blocages qu'il a permis et qu'il a laissé faire.
Mais alors, ce qui est un peu embêtant pour vous, Robin Rivaton, puisque vous êtes conseiller auprès de Valérie Pécresse, vous êtes proche des Républicains par conséquent, c'est que les différents candidats à la primaire républicaine arrivent avec des programmes économiques qui sont considérablement plus lourds en matière de réforme sociale que cette loi travail aujourd'hui. Du coup, comment imaginer que ces réformes puissent atteindre leur objectif lorsqu'on voit aujourd'hui les blocages qui sont suscités par la loi travail ?
Évidemment, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il faut dire que les propositions qui sont faites aujourd'hui par les candidats des Républicains, de la primaire de la droite et du centre, sont éminemment plus audacieuses et offensives que ce qui est proposé dans la loi El Khomri. Donc elles vont déclencher des oppositions. Alors, il y a des premières explications. Le mandat clair, les ordonnances, les 100 jours qui permettront effectivement, autant, qui sont autant d'atouts que n'a pas eu François Hollande, qui a réformé en fin de mandat avec peu de légitimité et de manière un peu lente. Mais ça ne changera pas tout, c'est pas ces mots talismans, on va les jeter, mais ça ne suffira pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un cap.
Donc là, vous êtes plutôt en train de résumer le programme économique d'Alain Juppé.
De tous. Je pense que tout le monde, toute cette réflexion sur la méthode est très largement partagée aujourd'hui avec cette volonté d'aller vite et d'aller fort. Mais il y a quelque chose qu'il faudra avoir en tête, c'est avoir un cap. Avoir un cap, c'est encore une fois revenir à la philosophie politique du programme. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut une démocratie sociale rénovée, autant que la démocratie politique. On a besoin aujourd'hui de faire revivre notre démocratie sociale qui n'est pas assez représentative et qui manque de légitimité.
Donc, quand vous dites qu'elle n'est pas assez représentative, c'est que les syndicats y sont trop représentés ?
C'est qu'aujourd'hui, les syndicats qui y ont accès sont limités. Il y a une sorte de, il y a le monopole puisqu'on n'a pas ouvert les élections au premier tour. Donc, il y a encore ce monopole qui reste là.
Pour vous, les syndicats ont trop de pouvoir.
Pas les syndicats. Je dis que les syndicats actuels ont trop de pouvoir. Ce qu'il faudrait, c'est de nouveaux syndicats. Il faudrait que des gens puissent pouvoir se présenter aux élections syndicales. Il faudrait qu'il y ait des délégués syndicats qui ne soient pas des professionnels du syndicalisme, mais qui soient des vrais délégués du personnel, qui soient des gens qui soient envoyés par le personnel, qui ne soient pas des permanents financés par la puissance publique. Donc il nous faut de vrais syndicats. Et ce travail de rénovation du dialogue social, il fait partie aussi d'un programme complet.
Un programme complet qui pourrait donc passer effectivement par un affaiblissement des syndicats actuels pour provoquer quoi ? Qu'est-ce que vous mettriez en quelque sorte dans la balance s'il fallait réformer économiquement la France, Robin Rivaton ?
Je pense que sur le droit du travail, le champ est assez clair aujourd'hui. La philosophie générale des projets qui nous sont proposés est simple. C'est de remettre la négociation au niveau de l'entreprise pour que les salariés et le dirigeant d'entreprise puissent négocier entre eux. C'est pas nier le fait qu'il peut y avoir une inégalité entre eux, qu'il peut y avoir une différence entre eux, qu'il y ait un lien de subordination entre eux, mais c'est l'essentiel de pouvoir qu'ils puissent négocier entre eux, qu'ils puissent non pas être contaminés par des injonctions nationales, par des considérations politiques ou idéologiques nationales. Ça, c'est le premier point, et je pense que c'est le point essentiel.
Bah, des considérations idéologiques, vous en avez aussi.
Bien sûr, mais moi, je veux pas aller négocier à la place des salariés dans les entreprises.
Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on négocie, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, on a toujours des arrière-pensées idéologiques, évidemment, puisque chacun a une idéologie. Et justement, si la loi est nationale et si les négociations sont nationales, c'est précisément pour qu'il y ait un cadre que les individus isolés, que telle ou telle direction ne puisse pas enfreindre s'il était, par exemple, en situation de force.
Mais le cadre sera toujours là. Il y aura toujours ce filet de sécurité, il y aura toujours ce tremplin quelque part qui sera là, parce que l'État définira toujours la norme minimale, celle qu'on ne pourra jamais enfoncer. Donc elle existe, cette norme-là, elle est déjà définie au niveau européen, elle est renforcée au niveau national français, donc elle existe. La question, c'est comment au niveau de l'entreprise, on peut négocier, c'est des choses qui peuvent être au-delà de cette norme minimale.
Non mais là, vous jouez sur les mots, parce que dans votre livre, Robin Rivaton, Actes dirigeants, publié aux Belles Lettres, vous proposez un marché du travail qui soit plus flexible, autrement dit une diminution des droits aujourd'hui des salariés, et cela, eh bien, ça ne peut être acceptable que dans une situation où les salariés y seraient contraints en quelque sorte.
C'est pas une diminution pour une diminution. Quand vous augmentez la possibilité de temps de travail et que vous le rémunérez en face, vous n'avez pas une diminution des droits du salarié. Vous avez une discussion qui s'opère sur une possibilité de travailler plus au sein de l'entreprise. Donc, c'est une discussion, encore une fois, qui sera volontaire et légitime. Personne n'est forcé. Personne ne sera contraint dans ce schéma-là, puisque après, l'adoption se fait soit par des accords majoritaires de syndicats, soit par le référendum. Donc, il n'y a aucune contrainte qui est exercée sur les salariés. Il n'y a aucune contrainte qui est réalisée. C'est de la pure volonté de chacune des parties.
Vous êtes jeune, est-ce que vous comprenez les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans le combat syndical, qui aujourd'hui sont mobilisés contre la loi travail, Robin Rivaton ?
Bien sûr, je pense qu'il est sain que dans une démocratie, il y ait de la contestation. C'est le principe même de la démocratie. Il est sain qu'il y ait des minorités qui puissent parler, qui puissent s'opposer, qui puissent critiquer des projets. Après, la question, c'est dans quelle mesure cette minorité puisse prendre le pouvoir au nom de la majorité, puisse s'imposer à ce qui est la représentativité nationale, qui est le système de démocratie français. Et là, on arrive à quelque chose qui pose problème.
Mais cette minorité qui prend le pouvoir, selon vos termes, elle considère uniquement qu'elle répond à un gouvernement qui a fait un passage en force.
Oui, il y a la question du passage en force qui se pose forcément quand on n'a pas eu le mandat clair ou légitime pour mener cette réforme. Donc là, avec ce dans ce cas-là et ce cas très précis, la question peut se poser. Mais encore une fois, un gouvernement n'est pas lié parce qu'il n'a pas proposé pendant une campagne. On n'est pas dans un mandat impératif. On ne peut pas rappeler à un gouvernement parce qu'on n'est pas content de ce qu'il a fait. Donc dans la démocratie représentative, on accepte qu'un gouvernement puisse changer d'avis.
Parmi les réformes qu'il faudrait faire, selon vous, pour que l'économie française aille mieux, est-ce qu'il faut, par exemple, supprimer le CDI ?
Non, je pense que le CDI devrait rester tel qu'il est. Moi, je ne suis pas partisan du contrat unique. Je pense qu'il nous faut un CDD à droit progressif, tel qu'il a été mis en place en Italie. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut un CDI qui reste tel qu'il est un CDI, mais dont les motifs de résolution, donc la fin du CDI, puissent être beaucoup plus transparents, puissent être beaucoup plus clairs. Et donc, c'est évidemment cette barémisation des indemnités de licenciement.
En matière de temps de travail, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ?
En matière de temps de travail, encore une fois, l'État a voulu décider de la vie, de l'organisation des entreprises. Il faut cesser avec ça. Il faut dire, on a voulu mettre à 35 heures. Aujourd'hui, on laisse la totale liberté aux entreprises de faire ce qu'elles veulent, au niveau de l'entreprise, encore une fois, avec les salariés et la discussion. Mais on ne revient pas pour remettre à 37, à 39. L'État reste à sa place.
Mais les rapports de force ne sont pas équilibrés, en quelque sorte, entre la direction et les salariés. C'est ce que rétorquent les syndicats lorsqu'on leur propose de descendre le pouvoir de négociation à l'échelle locale, autrement dit à l'échelon de l'entreprise. Et c'est vrai que dans un pays où il y a beaucoup de chômage, eh bien, l'employeur a évidemment une marge de négociation qui est supérieure à celle des salariés.
Cette vision-là est celle des syndicats, puisqu'évidemment, ils sont l'intermédiaire qui permet de rétablir cet équilibre. Donc, ils ont tous intérêt à défendre cette position. La question, elle n'est pas celle de remplacer un chômeur par un salarié. Les patrons qui ont des employés formés, qui sont là dans l'entreprise depuis longtemps, ne vont pas les sacrifier pour les remplacer par un chômeur s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Dans la logique qui est celle du référendum d'entreprise, dans la logique qui est celle de donner la parole aux salariés dans un référendum à bulletin secret, l'égalité est là, l'égalité est retrouvée. C'est ce qu'on a vu sur des exemples comme Smart. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les salariés sont en capacité d'émettre un avis totalement clair. Ils n'ont pas besoin d'être intermédiés par des syndicats. Et on le voit bien aujourd'hui dans un monde qui est plus horizontal, dans lequel cette hiérarchie un peu naturelle, parce qu'il y avait des gens moins qualifiés, parce que le niveau de qualification n'était pas égal parmi la population, aujourd'hui s'effondre un peu et on veut des relations plus plate.
Vous êtes proche, je le rappelle, des Républicains, puisque vous êtes conseiller de Valérie Pécresse, Romain Rivaton. Est-ce qu'il y a dans le discours, par exemple, d'Emmanuel Macron, des choses qui vous paraissent éloignées de ce que les Républicains veulent dans le domaine économique ?
Il y a surtout des choses qui sont proches avant d'être éloignées. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui une proximité entre ces deux discours. Mais au-delà des mesures, encore une fois, techniques, je pense que l'important, c'est de revenir à la philosophie. Quelle est la philosophie de ce projet ? La philosophie, c'est de remettre de la mobilité. Aujourd'hui, la société est totalement figée. Et forcément, celui qui a personne n'a envie de bouger, puisque celui qui bouge est perdant. Il tombe, il n'y a pas d'autre case, il n'y a rien pour l'accueillir. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de réussir à remettre cette mobilité, à remettre de la vitalité dans ce système qui est relativement bloqué, à sortir un peu du figisme quelque part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes très déterminé en fonction de là où vous naissez, du diplôme que vous avez. La France vous trace des trajectoires. Comment faire en sorte pour qu'il y ait des passerelles dans ce pays et qu'on puisse passer d'un endroit à un autre ?
Pensez-vous que vous soyez majoritaire dans le pays ?
Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il est possible de construire une coalition réformiste majoritaire pour une élection. C'est pas tout. Encore une fois, comme vous l'avez très bien dit, il y a l'exécution derrière. Comment on passe d'une élection avec un mandat clair à une exécution et une exécution sur le terrain qui fonctionne? Je pense que là aussi, il faut être relativement préparé. Il faut être prêt à faire respecter la légalité de partout où elle doit être respectée, à éviter les blocages et les saccages.
Et s'il fallait parler incarnation, quel candidat, quel homme, quelle femme vous paraît susceptible de porter en quelque sorte ce discours, Robin Rivaton ?
Moi, je dois avouer ma proximité avec Bruno Le Maire pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que le changement aujourd'hui doit être systémique. On ne peut pas régler quelques curseurs, il faut qu'on ait vraiment une vision globale sur ce qu'on doit changer. Pour que tout change, on doit rénover notre démocratie politique, on doit refonder notre démocratie sociale, et je pense que c'est quelque chose qui est proposé aujourd'hui par Bruno Le Maire.
Un pronostic sur l'issue de ce rapport de force aujourd'hui engagé entre la CGT et le gouvernement ?
Je crains qu'on puisse avoir un CPE bis, c'est-à-dire une promulgation non effective de la loi, puisque le gouvernement est très largement coincé par l'idée de l'euro 2016 qui doit être un succès.
Merci beaucoup, Robin Rivaton. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Aux actes dirigeants » publié aux Belles Lettres. Et puis à 8h15, on continuera à évoquer cette épreuve de force. Cette fois-ci, nous serons en compagnie de Pierre Ferracci, PDG du groupe Alpha. Le groupe Alpha conseille des comités d'entreprise. Il est proche de la CGT. Et nous serons également en compagnie de Léla de Comarmont, qui est une journaliste qui connaît très bien la CGT.